Chapitre 21. Pour Eddie, ainsi que l'avait dit un jour quelques sages, tout n'était jamais qu'un éternel recommencement. Il galopait, poussant le fauteuil de Susanna, luttant de vitesse avec le temps. La rue de la Tortue avait remplacé la plage, mais en somme, c'était du pareil au même. Oh, il y avait une différence notable. À présent, c'était une gare ou un berceau qu'il cherchait, pas une porte logée dans le vide. Susanna était assise, droite comme un i dans son fauteuil, ses cheveux voletant, le revolver de Roland dans la main droite, son canon pointé vers le ciel lourd de nuages d'orage. La batterie pulsait sans cesse, les matraquant de son tonnerre. Un objet semblable à un plat gigantesque gisait au milieu de la chaussée juste devant eux. L'esprit surmené d'Eddie, peut-être à cause des édifices classiques qui les entouraient, fit surgir l'image de Jupiter et de Thor jouant au frisbee. Jupiter fait un superbe lancer, Thor laisse tomber le disque à travers un nuage. Putain, c'était l'heure de la récré sur l'Olympe. Le frisbee des dieux, pensa-t-il, faisant slalomer Susanna entre deux épaves de voitures rouillées. Quel concept! Il propulsa le fauteuil sur le trottoir pour contourner l'objet qui, vu de près, avait l'air d'une antenne parabolique. Il faisait redescendre le fauteuil du trottoir avant de le remettre sur la chaussée, le trottoir étant trop encombré de saloperies pour permettre de battre des records, quand la batterie se tut, soudainement. Les échos roulèrent et s'éloignèrent dans un silence renouvelé. Sauf que ce n'était pas réellement du silence, remarqua-t-il. Devant eux, un bâtiment de marbre se dressait à l'intersection de la rue de la Tortue et d'une deuxième avenue. Bien que parasité par la vigne et une plante hirsute semblable à des barbes de cyprès, il conservait sa magnificence et une certaine majesté. Un peu plus loin, une foule jacassait avec excitation.
« Ne t'arrête pas !» ordonna sèchement Susanna. « Nous n'avons pas le temps de... »
Un cri hystérique perça les babillages, accompagné de beuglements d'approbation et, chose incroyable, de ce genre d'applaudissements qu'Eddie avait entendu dans les hôtels casinos d'Atlantic City après la prestation du pianiste de service. Le cri s'étrangla en un long gargouillis mourant, pareil à la stridulation d'une cigale. Eddie sentit ses cheveux se dresser sur la tête. Il jeta un coup d'œil au cadavre suspendu au plus proche haut-parleur et comprit que les ados de Lude, en quête de divertissement, s'adonnaient à une nouvelle exécution publique. Super, pensa-t-il. Il ne leur manque que Tony Orlando et Dawn chantant Knock Three Times pour mourir heureux. Il regarda avec curiosité le pilier d'angle de pierre. D'aussi près, la vigne qu'il avait envahie exhalait une puissante odeur d'herbe, sacrément amère, mais qu'il préférait à tout prendre à la senteur douceâtre de cannelle des cadavres momifiés. Les vrilles retombaient en gerbes échevelées, créant des cascades végétales à l'emplacement des anciens porches. Tout à coup, une silhouette jaillit comme une fusée de l'une de ces cascades et se précipita vers eux. Eddie s'aperçut qu'il s'agissait d'un gamin, et qui n'avait pas quitté ses langes depuis très longtemps, à en juger par sa taille. Il était vêtu d'un étrange costume à la petite Lord Fauntleroy, avec chemise blanche à jabot et culotte courte de velvet, et portait des rubans dans les cheveux. Une folle envie démangea Eddie d'agiter les mains au-dessus de sa tête et de hurler « Visez-moi ça, Lune et sans sas !»«
Venez !» cria le gamin d'une voix flûtée. Des aigrettes de verdure s'étaient prises dans ses cheveux. Il les balaya d'un air distrait de sa main gauche tout en courant.
« Ils vont zigouiller Spanka. C'est au tour de papa Spanka d'aller au pays de la batterie. Venez, vous allez louper tout le spectacle par la malédiction des dieux !»
Susanna, elle aussi, était ébahie à la vue de l'enfant.
Comme il approchait, il fut frappé par un je ne sais quoi d'extrêmement bizarre et maladroit dans la façon qu'il avait de repousser les vrilles et les gourmands qui s'accrochaient dans ses cheveux enrubannés. Il ne se servait que d'une main. Il tenait l'autre derrière son dos quand il avait jailli de la cascade d'herbe folle, et derrière son dos elle demeurait. « Ça doit être d'un pratique, » pensa-t-elle. Puis, un magnétophone se déclencha dans sa tête et elle entendit Roland parler au bout du pont. « Je savais qu'un truc dans ce goût-là risquait de se produire, et si nous avions vu ce gars plus tôt quand nous étions encore hors de portée de son œuf explosif, nous aurions pu le tenir à distance. Merde !» Elle leva le revolver de Brandt à la hauteur de l'enfant qui avait bondi du trottoir et leur fonçait droit dessus.
« Stop !» cria-t-elle. « Plus un geste !»« Suzy, qu'est-ce qui te prend ?»
hurla Eddie. Susanna l'ignora. Au sens propre du terme, Susanna Dean n'existait plus. C'était Detta Walker qui était assise dans le fauteuil roulant et ses yeux brillaient d'une suspicion terrible.
« Stop ! Ou je tire !»
Le petit Lord Fauntleroy aurait aussi bien pu être sourd pour l'effet que lui fit la sommation.
« Rengainez votre arme ! »
brailla-t-il.
« Vous allez rater tout le spectacle ! Spanker va !»
Sa main droite commença enfin à émerger de derrière son dos. À cet instant, Eddie prit conscience qu'il n'avait pas affaire à un gamin, mais à un nain difforme dont l'enfance remontait à un bail. L'expression qu'Eddie avait prise de prime abord pour de la pétulance enfantine était en réalité un froid mélange de haine et de rage. Les joues et le front du nain étaient recouverts de ces plaques décolorées et suintantes que Roland appelait les bourgeons des putes. Susanna ne vit pas son visage. Son attention était fixée sur la main droite qui peu à peu apparaissait et sur la sphère vert mat qu'elle tenait. C'était tout ce qu'elle avait besoin de voir. Le revolver de Roland cracha. Le nain fut projeté en arrière. Un cri strident de douleur et de rage s'éleva de sa bouche minuscule quand il atterrit sur le trottoir. La grenade sauta de sa main et repartit en roulant vers la même entrée voûtée d'où le nain avait surgi. Detta s'était volatilisé comme un songe et Susanna, étonnée, horrifiée, désemparée, regardait par-dessus le revolver fumant la silhouette miniature étalée sur le trottoir.
« Oh mon Dieu, je l'ai tué, Eddie, je l'ai tué !»
« Mort au gris !»
Le petit Lord Fauntleroy essaya de lancer ses mots avec bravade, mais ils s'étranglèrent dans un gargouillis de sang qui macula les rares îlots encore blancs de sa chemise à jabot. Une explosion assourdie parvint de la plaza intérieure, envahie par la végétation, du bâtiment d'angle, et les tapis de verdure miteuse masquant les entrées voûtées ondulèrent comme des drapeaux dans une rafale. Des nuages d'une fumée suffocante, âcre, s'en échappèrent, et Eddie se jeta sur Susanna pour lui faire un bouclier de son corps. Il sentit une averse de morceaux de béton, petits heureusement, crépiter sur son dos, son cou et son crâne. Des bruits déplaisants de baisers mouillés s'élevèrent sur sa gauche. Il ouvrit les yeux en une fente et vit la tête du petit Lord Fauntleroy s'immobiliser dans le caniveau. Le nain avait les yeux grands ouverts, la bouche figée sur son ultime vocifération. Des hurlements de fureur retentirent. Eddie donna une poussée au fauteuil de Susanna, le siège vacilla sur une roue avant de se décider à se mettre d'aplomb, et regarda dans la direction d'où avait jailli le nain. Une foule dépenaillée constituée d'une vingtaine d'hommes et de femmes avait surgi, certains venant de derrière l'édifice, d'autres se frayant un chemin au sein de l'entrelac de feuillage qui obscurcissait les porches, se matérialisant hors de la fumée produite par la grenade du nain, tels des esprits mauvais. La plupart portaient des fichus bleus, et tous étaient armés. Un assortiment d'armes hétéroclites, et quelque peu pitoyables. Épées rouillées, couteaux émoussés, et gourdins fendus. Eddie aperçut un homme qui brandissait un marteau avec un air de défi. Des ados, pensa-t-il. Nous avons interrompu leur séance de pendaison, et ça les emmerde un max.
un teubeu de cris. Mort aux gris, tuez ces deux-là, ils ont descendu la star, que les dieux leur crèvent les yeux.
S'éleva de ce charmant groupe à la vue de Susanna dans son fauteuil roulant et Dédie agenouillé devant. Le chef de file était vêtu d'une sorte de kilt et agitait un coutelas. Il le brandit farouchement, au risque de décapiter la femme trapue dans son dos si celle-ci n'avait baissé la tête, puis chargea. Les autres suivirent dans un concert de joyeux braillements. Le revolver de Roland tonna dans le jour venteux, couvert, et le crâne de l'ado en kilt se décolla. La peau cireuse de la femme qui avait échappé de justesse à la décapitation se pointilla soudain de gouttelettes rubis. La femme glapit d'effroi. Le reste de la bande la dépassa, ainsi que l'homme mort en plein délire et les yeux fous.
« Eddie !»
hurla Susanna qui fit de nouveau feu. Un homme, portant une cape doublée de soie et des bottes, s'effondra sur la chaussée. Eddie rechargea le Ruger à tâtons et vécut un instant de pure panique quand il crut l'avoir perdu. La crosse de l'arme avait glissé sous sa ceinture. Il l'empoigna et tira de toutes ses forces. La mire, au bout du canon, s'était coincée dans son caleçon. Susanna tira trois coups d'affilée, faisant mouche à chaque fois, mais la vague d'ado ne ralentissait pas.
« Eddie, à l'aise !»
Eddie déchira son pantalon, se faisant l'impression d'être une version au rabais de Superman, et réussit enfin à libérer le Ruger. Il en fit sauter le cran de sûreté du revers de la paume gauche, posa le coude sur sa cuisse, juste au-dessus du genou, et fit feu. Pas besoin de réfléchir, même pas besoin de viser. Roland leur avait dit que, lors d'une fusillade, les mains d'un pistolero fonctionnaient toutes seules, et Eddie s'apercevait que c'était vrai. De toute manière, un aveugle aurait mis de la bonne volonté pour rater sa cible à cette distance. Susanna avait réduit le nombre de ses assaillants à 15. Eddie s'engouffra dans le reste comme un ouragan dans un champ de blé, en tuant 4 en moins de 2 secondes. Le visage unique de la foule, avec son expression d'avidité glacée et stupide, commença à se désagréger. L'homme au marteau jeta son arme et s'élança à sa suite, clopinant de façon extravagante sur 2 jambes déformées par l'arthrite. 2 hommes lui emboîtèrent le pas, les autres, indécis, tournèrent et virèrent sur la chaussée.
« Revenez, dégonflez !»
cria un type relativement jeune d'une voix hargneuse. Arborant son écharpe bleue autour de son cou comme un coureur de rallye sans ascot, il était chauve, excepté 2 touffes de cheveux roux frisottés de part et d'autre de la tête. Susanna trouva qu'il ressemblait à Clarabelle le clown. Eddie à Ronald McDonald, tous deux pensèrent qu'il avait tout du trouble fait. Il jeta une lance de fabrication maison qui pouvait bien avoir entamé son existence sous la forme d'un pied de table métallique. L'arme tomba dans un cliquetis sans causer de dommages à droite d'Eddie et de Susanna.
« Revenez, j'ai dit ! Nous les aurons si nous réunissons nos... »«
Désolé, mec !» murmura Eddie qui le visa à la poitrine.
Clarabelle Ronald chancela en arrière, portant la main à sa chemise. Il fixa Eddie avec des yeux comme des soucoupes qui disaient, de navrante et éloquente façon, que la scène n'était pas prévue au scénario. Sa main retomba lourdement le long de son flanc. Un unique filet d'un sang extraordinairement vif dans la grisaille ambiante ruissela du coin de ses lèvres. Les quelques ados restants rivèrent sans un mot leur regard sur lui, tandis qu'il s'affaissait sur ses genoux. L'un d'eux voulut détaler.
Ma cache, fit Eddie. Reste où tu es, aimable crétin, ou tu vas voir un bon aperçu de la clairière où s'achève ta route.
Il haussa le ton.
Jetez vos armes, jeunes gens! Tout de suite!
Chuchota le mourant. Vous pistoleront?
Tout juste, Auguste. Rétorqua Eddie, qui, la mine menaçante, surveillait le groupe d'ados.
J'implore votre... pardon,
haleta le rouquin aux cheveux frisottés, puis il tomba la tête en avant.
Des pistoleros ?
Demanda l'un des autres sur un ton qui exprimait l'horreur et la compréhension naissante.
Bon, débile, mais pas sourd. « C'est déjà ça, » dit Susanna.
Elle agita le canon du revolver. L'arme devait être vide, pensa Eddie. Au fait, combien de cartouches pouvait-il encore y avoir dans le Ruger ? Il s'aperçut qu'il n'avait pas la moindre idée du nombre de cartouches que contenait le magasin et maudit sa stupidité. Mais aussi, avait-il réellement cru pareil affrontement possible? Non.
Vous l'avez entendu, monsieur, dame? Lâchez vos armes! Les vacances sont terminées!
Un par un, ils obéirent. La femme qui arborait sur sa figure une pinte ou à peu près du sang de monsieur Épée et Kilt déclara
« Vous n'auriez pas dû tuer Winston, mademoiselle. C'était son anniversaire, si fait. »
« Eh bien, il aurait mieux fait de rester chez lui et de baffrer plus de gâteaux, » dit Eddie. Compte tenu de l'atmosphère générale de l'aventure, le garçon ne trouva pas plus surréaliste la remarque de la femme que sa réponse. Il y avait une seconde femme parmi les adolescents, une créature décharnée dont les longs cheveux blonds se dégarnissaient par plaques comme si elle souffrait de la pelade. Eddie l'observa tandis qu'elle se glissait vers le nain mort, et au-delà de la sécurité potentielle des voûtes envahies par la végétation, elle logea une balle dans le béton craquelé près de son pied. Il n'avait aucune idée de ce qu'il comptait lui faire, mais il ne voulait sûrement pas, en revanche, que l'un d'eux donnât des idées aux autres. Surtout, il craignait ce que ses mains risquaient d'accomplir si cette racaille souffreteuse et renfrognée qu'il avait sous le nez tentait de s'enfuir. Quoi que son cerveau pensât à propos de ce boulot de pistolero, ses mains, elles, avaient découvert qu'elles aimaient ça.
« Restez où vous êtes, ma belle. L'agent de police Friendly vous dit d'y aller pépère. »
Eddie jeta un coup d'œil à Susanna et fut pris d'inquiétude à la vue de son teint grisâtre.
« Susie, tu vas bien ?»
lui demanda-t-il à voix basse.
« Oui.
Tu vas pas tourner de l'œil ou un truc dans ce goût-là, hein ?»«
Parce que... non. Non. »
Elle le dévisagea avec des yeux si sombres qu'on eût dit des cavernes.
« C'est seulement que... j'avais jamais tué quelqu'un avant. Dac ?»
Eh bien, tu ferais mieux de t'y habituer. » Eddie ravala la phrase qui lui montait aux lèvres et reporta le regard sur les cinq ados qui observaient le couple avec une espèce de crainte morne qui était loin d'être de la terreur.
Merde!
La plupart d'entre eux ont oublié ce qu'est la terreur, pensa Eddie.
Même chose pour la joie, la tristesse, l'amour.
Je crois pas qu'ils ressentent grand-chose désormais. Ils ont vécu trop longtemps dans ce purgatoire. Puis il se remémora les rires et les cris excités, les applaudissements frénétiques, et reconsidéra la question. Il y avait au moins une chose qui faisait toujours tourner leur moteur, une chose qui actionnait toujours leur manette. Spanker aurait pu en témoigner.
« Qui est le responsable parmi vous ? »
demanda-t-il. Il scrutait l'intersection derrière le petit groupe au cas où les fuyards auraient retrouvé leur courage. Jusque-là, il ne voyait ni n'entendait rien d'alarmant de ce côté-là. Les autres avaient sans doute abandonné cette bande déguenillée à son destin. Tous s'entre-regardèrent, indécis, puis la femme à la face ensanglantée prit la parole.
C'était Spanker, mais quand le tambour des dieux a retenti, cette fois, c'est le caillou de Spanker qui est sorti du chapeau, et nous l'avons fait danser. Je pense que Winston lui aurait succédé, mais vous l'avez tué avec vos revolvers pourris par les dieux. »
Elle essuya à dessein un peu de sang de sa joue, examina, puis reporta son regard morne sur Eddie.
« Ouais, que croyez-vous que Winston essayait de me faire avec sa lance pourrie par les dieux ?»
Eddie était ulcéré que cette bonne femme ait réussi à le faire se sentir coupable de son acte.
« M'en rafraîchir les rouflaquettes ?»
« Vous avez zigouillé Frank et Lester et tout ?»
poursuivit-elle avec obstination.
« Et qu'est-ce que vous êtes ? Soit des gris, ce qui est mal, soit un couple d'étrangers pourris par les dieux, ce qui est pire. Que reste-t-il pour les ados à Cité Nord ? Topsy, je suppose. Topsy, le marin, mais il n'est pas là, hein ? Il a pris son bateau et a descendu le fleuve, si fait, et que les dieux le fassent pourrir lui aussi. »
Susanna avait cessé d'écouter. Son esprit s'était fixé dans une fascination horrifiée sur quelque chose que la femme avait dit plus tôt. C'est le caillou de Spanker qui est sorti du chapeau et nous l'avons fait danser. Elle se souvint d'avoir lu, du temps où elle était à la fac, une histoire de Shirley Jackson, la loterie, et comprit que ces gens-là, les descendants dégénérés des ados originels, vivaient le cauchemar imaginé par l'écrivain. Pas étonnant qu'ils fussent incapables de ressentir la moindre émotion forte quand ils savaient qu'ils auraient à prendre part à cette loterie macabre, non pas une fois l'an, comme dans le roman, mais deux ou trois fois par jour.
Pourquoi ? Demanda-t-elle à la femme ensanglantée d'une voix sévère, horrifiée. Pourquoi faites-vous ça ?
La femme regarda Susanna comme si cette dernière était la plus grande imbécile que la terre eût jamais portée.
Pourquoi ? Afin que les fantômes qui habitent les machines ne s'emparent pas des corps de ceux qui sont morts ici, ados ou gris, et ne les envoient par les trous des rues pour nous dévorer. N'importe quelle demeurée, c'est ça.
Mais fantômes n'existent pas. Susanna trouva sa remarque absurde. Bien sûr qu'ils existaient. Dans ce monde, les fantômes pullulaient. Elle poursuivit néanmoins.
Ce que vous appelez le tambour des dieux n'est qu'une bande coincée dans un appareil, ni plus ni moins.
Sous le coup d'une inspiration subite, elle ajouta.
Ou peut-être est-ce un stratagème des gris ? Y avez-vous jamais songé ? Ils vivent dans l'autre partie de la cité, n'est-ce pas ? Ainsi qu'au-dessous. Ils ont toujours désiré vous faire partir. Peut-être ont-ils trouvé un moyen réellement efficace de vous faire faire le boulot à leur place.
La femme ensanglantée se tenait près d'un homme d'âge mûr, coiffé de ce qui paraissait être le plus antique chapeau melon du monde et vêtu d'un short kaki effrangé. Il se porta en avant et s'adressa à Susanna avec un vernis de bonne manière qui transforma son mépris latent en une dague au tranchant affûté comme un rasoir.
« Vous vous trompez du tout au tout, madame Pistolero. Il y a une pléthore de machines dans le ventre de Lude et des fantômes dans chacune des esprits démoniaques qui ne souhaitent que du mal aux mortels. Ces fantômes diaboliques sont très capables de ressusciter les morts, et à Lude, ceux-là sont légions.
Écoutez, dit Eddie, avez-vous déjà vu de vos yeux vu un de ces zombies, Jeeves ?
L'un de vous en a-t-il vu ?
Jeeves fit la moue et ne dit mot, mais cette moue disait tout. Que pouvait-on attendre d'autres de barbares qui utilisaient des pétards en lieu et place de leur cervelle ? Eddie décida que mieux valait clore la discussion. Il n'avait jamais eu la fibre missionnaire de toute façon. Il ajouta le rugger en direction de la femme mouchetée de sang.
« Vous et votre copain, celui qui ressemble à un maître d'hôtel British pendant son jour de sortie, vous allez nous emmener à la gare. » Après cela, nous pourrons tous nous dire ciao, et je vais vous avouer un truc, ça éclairera ma putain de journée.
La gare, répéta le type qui ressemblait à Jeeves, le maître d'hôtel.
Qu'est-ce que c'est, une gare ? Conduisez-nous au berceau, intervint Susanna. Menez-nous à Blaine.
Précision. Qui eût pour effet d'ébranler Jeeves. Une expression d'horreur choquée remplaça le mépris blasé dont il les avait gratifiés jusque-là.
« Vous ne sauriez y aller »
cria-t-il.
« Le berceau est zone interdite et Blaine est le fantôme le plus dangereux de tout Lude. »
« Zone interdite, pensa Eddie. Super !»
« Si c'est vrai, au moins pourrons-nous cesser de nous préoccuper de vous autres, trous du cul !»
C'était chouette aussi d'entendre qu'il y avait toujours un Blaine, et que ces gens pensaient qu'il existait.
Les autres fixaient Eddie et Susanna avec des expressions hébétées. On eût dit que les intrus venaient de suggérer à un groupe de chrétiens ressuscités de retrouver l'Arche d'Alliance et de la transformer en toilette payante. Eddie leva le Ruger jusqu'à avoir le milieu du front de Jeeves dans le viseur.
« Nous partons, » déclara-t-il, « et si vous ne voulez pas rejoindre vos ancêtres à l'instant, je vous conseille d'arrêter de jouer les troubles faits de Grincheux et de nous y emmener. »
Jeeves et la femme ensanglantée échangèrent un regard dépourvu d'assurance. Toutefois, quand l'homme au chapeau melon considéra de nouveau Eddie et Susanna, son visage était résolu.
« Tuez-nous, si ça vous chante !» dit-il. « Nous préférons mourir ici que là-bas. »« Vous êtes un ramassis d'enfoirés de première au cerveau ramolli !»
leur cria Susanna.
« Personne ne va mourir! Conduisez-nous seulement là où nous voulons aller, pour l'amour de Dieu !»
La femme dit lugubre. « Mais c'est la mort que de pénétrer dans le berceau de Blaine, madame. Si fait, car Blaine dort et qui trouble son repos doit en payer le prix. »« Allons, ma jolie, » lança Eddie d'un ton rogue. « Allons, ma jolie, » lança Eddie d'un ton rogue. « Tu ne peux sentir l'arôme du café avec ta tête sur ton cul. »«
Je ne comprends pas. »
répliqua la femme avec une dignité étrange et embarrassante. En d'autres termes, soit vous nous conduisez au berceau au risque d'encourir la colère de Blaine, soit vous restez ici au risque de tâter de sel de Papa Eddie. Ça sera pas forcément une balle bien proprette dans la tête, figurez-vous. Je peux vous ôter un morceau à la fois et je suis d'assez méchante humeur pour le faire. Je passe une fort mauvaise journée dans votre bled. La musique craint un max, tout le monde pue, et le premier gus que nous avons rencontré nous a balancé une grenade à la gueule et a kidnappé notre pote. Alors, quelle est votre réponse ?
Pourquoi irions-nous à Blaine ? Demanda un des autres.
Il ne quitte plus sa couche dans le berceau, et ce depuis des années. Il a même cessé de parler de ses nombreuses voix et de rire.
Parler de ses nombreuses voix et rire, pensa Eddie.
Il regarda Susanna. La jeune femme lui retourna son regard et haussa les épaules.
Hardis a été le dernier à s'approcher de Blaine, déclara la femme ensanglantée.
Jeeves hocha lugubrement le menton.
Hardis faisait toujours n'importe quoi sous l'effet de la boisson. Blaine lui a posé une question. Je l'ai entendue, mais je ne l'ai pas comprise. Quelque chose à propos de la mère des corbeaux, je crois. Et comme Hardis ne savait pas répondre, Blaine l'a tué avec du feu bleu.
De l'électricité ? Demanda Eddie. Jeeves et la femme ensanglantée acquiescèrent à l'unisson.
Oui, confirma la femme. « De l'électricité, c'est ainsi qu'on appelait cela autrefois. Oui. »«
Vous n'avez pas besoin d'entrer avec nous, » proposa soudain Susanna. « Conduisez-nous seulement en vue de cet endroit. Nous ferons le reste du trajet seuls. »
La femme le dévisagea avec méfiance, puis Jeeves attira sa tête près de ses lèvres et lui marmonna un bout de temps à l'oreille. Les autres ados se tenaient derrière en un rang effiloché, fixant Eddie et Susanna avec les yeux hébétés de gens qui ont échappé à un raid aérien gratiné. Enfin, la femme regarda à la ronde.
« Si fait, nous allons vous emmener à proximité du berceau et puis ce sera bon débarras de votre sale engeance. »«
J'en ai autant à votre service, » dit Eddie. « Vous et Jeeves, « Restez, les autres, barrez-vous !»
Il balaya le groupe du regard.
« Mais rappelez-vous ceci, un coup de lance en traître, une flèche, une brique, et ces deux-là mourront !»
La menace parut si dérisoire, si fut-il, qu'Eddie regretta de l'avoir proférée. Comment se soucierait-il de ces deux zigotos, et de tout autre membre de leur clan, quand ils en estourbissaient deux ou plus, et ce tous les jours ? « Bon, » pensa-t-il, tandis qu'il observait la troupe s'égayer en courant sans même un regard en arrière. « Il est trop tard pour s'en soucier désormais. »«
« Venez !» dit la femme. « Je vais en finir avec vous. »
« Et c'est réciproque, » rétorqua Eddie.
Mais avant que Jeeves et la femme ne les emmenèrent, celle-ci fit une chose qui obligea Eddie à se repentir quelque peu de ses dures pensées. S'agenouillant, elle repoussa les cheveux de l'homme portant kilt et posa un baiser sur sa joue crasseuse.
« Au revoir, Winston, » dit-elle. « Attends-moi là où les arbres s'éclaircissent et où l'eau est douce. Je viendrai te rejoindre, si fait, aussi sûr que l'aube fait se disperser des ténèbres vers l'ouest. »
« Je n'avais pas l'intention de le tuer, » déclara Susanna. « Je veux que vous le sachiez, mais j'avais moi encore celle de mourir. Si fait !»
Le visage qui se tourna vers Susanna était sévère et dénué de larmes.
« Cependant, si vous désirez pénétrer dans le berceau de Blaine, vous mourrez de toute façon. Et alors, vous envierez à coup sûr ce pauvre vieux Winston. Il est cruel, Blaine. Le plus cruel de tous les démons de cet endroit. Oh, combien cruel !»« Viens, Maud, » dit Jeeves, qui l'aida à se remettre debout. « Si fait !» « Finissons-en avec eux !»
Elle regarda encore Susanna et Eddie, la mine sévère mais à rien égaré.
« Que les dieux maudissent mes yeux pour vous avoir vu, et que les dieux maudissent aussi les armes que vous portez, car elles ont toujours été la source de nos ennuis !»
En réagissant comme ça, « t'es pas sortie de l'auberge, ma cocotte, » pensa Susanna.
Maud fila d'un bon pas dans la rue de la Tortue, Jeeves trottant à ses côtés. Eddie, qui poussait Susanna dans son fauteuil, ne tarda pas à être hors d'haleine, peinant pour maintenir l'allure. Les édifices grandioses qui bordaient leur route se multipliaient et ressemblèrent bientôt à des manoirs couverts de lierre dressés sur des pelouses exubérantes. Eddie devina qu'il venait d'entrer dans ce qui avait autrefois été un quartier hyper chicose. Devant eux, un bâtiment se profilait au-dessus des autres, une construction carrée, faussement simple, en blocs de pierre blanche, son toit en avancée soutenu par de nombreux piliers. Eddie repensa au film de gladiateurs dont il raffolait gamin. Susanna, qui avait fréquenté des établissements plus classiques, songea au Parthénon. Tous deux virent et admirèrent le bestiaire somptueusement sculpté, ours et tortues, poissons et rats, cheval et chien, qui, par groupe de deux, enseignaient le sommet et comprirent que c'était l'endroit qu'ils cherchaient. La sensation déplaisante d'être épié par de nombreux yeux, des yeux qu'emplissaient à part égale la haine et l'étonnement, leur collait à la peau. Le tonnerre gronda quand ils arrivèrent en vue du monorail. Comme leur âge, le rail venait du sud, rejoignant la rue de la Tortue et filant vers le berceau de Lude. Et comme ils approchaient de celui-ci, de chaque côté d'eux, d'antiques cadavres se mirent à se tordre et à danser dans le vent qui montait.